Vous écoutez
RMC.
RMC.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
Ici, c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After Fair et Foot, vous avez l'habitude, si vous voulez nous voir, vous connaissez l'adresse, l'After est la première radio trans le soir, espace de liberté pour vous tous les supporters des clubs français, supporters de Marseille, de Lille, on vous attend en priorité car on va analyser les deux matchs du soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et avec Florent Gautreau, salut Florent.
Salut à tous.
Bon, il y aura l'actu du jour aussi, les drôles de dames qui seront là pour parler des autres rencontres du soir. Il y a pas mal de buts, quelques surprises, notamment la victoire de l'Atalanta 3-0 à Liverpool. Bref, vous saurez tout d'ici minuit 30. Et ensuite, il y aura la libre antenne, 2 minutes 30 à 1h30 avec Nico Villas et son orchestre. Ce sera tout à l'heure. 32-16, on vous attend. Direct Studio également est dispo. N'hésitez pas à nous écrire. Les gars, c'est parti pour les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, de quoi tu veux parler?
Bah, premier point, ça va être les résultats, parce que dans ces cas-là, c'est toujours de ça dont on parle avec qu'est-ce que ça va donner match retour, est-ce que ça peut le faire, est-ce que ça peut, ça va pas le faire. Ça reste quand même deux défaites, et puisqu'il y a plus de but à l'extérieur, ce sont deux défaites nettes, brutes. Les espoirs, ils existent, mais je crois pas qu'ils soient immenses quand même. Et puis après, le point 2, bah, on va parler de l'OM en premier. Honnêtement, je trouve que l'OM s'en tire pas si mal, tant à un moment, on a cru qu'il prendrait l'eau. Et le troisième point, c'est un peu inversé. Je pense qu'il y a pas mal de regrets pour les Lillois, mais qui pêchent ce soir là de la même façon qu'ils pêchent très souvent en championnat, par une efficacité offensive qui est pas au niveau de la Coupe d'Europe, malheureusement.
Florent, mon premier point, ce sera quand même 3 défaites en 3 matchs pour les clubs français, effectivement. Oui. Donc je rajoute la 3e hier. Donc si on veut faire un bilan, même si rien n'est perdu parce qu'il y a qu'un but d'écart, donc on est, on va dire, toujours en vie, mais on est sous respirateur artificiel. Le point 2, c'est que j'ai parlé des problèmes défensifs français récemment là, sur la culture défensive. Eh ben, que ce soit pareil hier ou ce soir, encore une fois, si on perd, il y a plein de raisons, mais il y a notamment ça. Ça défend pas bien, ça défend mal, et l'OM d'ailleurs repère Merlin encore ce soir, donc on va reparler aussi des absents.
T'as pas fini.
Après le point 3, je voulais parler justement des matchs, des autres matchs, parce que à la fois Liverpool battu 3-0 par l'Atalanta, mais on en parlera après. Et un point sur le Bayer Leverkusen qui a encore marqué dans les dernières minutes, mais qui a des stats hallucinantes dans son match où West Ham n'a pas existé.
Alors moi, je veux bien, Flo, que tu parles des faiblesses défensives. Je dis pas que tu fais pas bien de les noter, mais pardon, dans ces deux matchs-là, tu dois également regarder devant. L'OM, c'est d'une pauvreté terrible, à part Aubameyang, qui est une sorte de gars qui cache un peu la médiocrité autour de lui. Et Lille, c'est pas tellement la défense que je vais pointer ce soir. Tu vois, ils prennent deux buts. Alors là, si tu me dis que sur le corner, le marquage, il est moisi, évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais à un moment, quand t'as autant d'occasions devant, il y en a au moins... Il y a 4 face à face. 3-4 face à face.
Je crois que Dibou Martinez aime bien les Français, hein.
Mais en un quand même.
Il y en a trois nettes.
J'allais dire, et parce que tu comptes pas celui de Joe David qui est peut-être un peu moins net.
Ouais.
Ok. Bon, là c'est trop quoi. Et surtout quand tu sais que c'est récurrent par rapport à ce que tu vois de Lille en championnat, peut-être un petit peu moins ces dernières semaines, mais on était un peu habitué à voir ça l'année dernière et même dans le gros début de cette saison. Alors c'est vrai que c'est les attaquants qui coûtent cher dans le football. C'est vrai que justement l'efficacité offensive, c'est ce qui coûte dans l'investissement d'une équipe. Mais à un moment, en Coupe d'Europe, à ce niveau-là, moi, c'est ça surtout qui m'a frappé ce soir, plus que ce que tu soulignes, à savoir la défense. Autant hier, oui, quand t'as un gardien de ce niveau-là, c'est handicapant. Autant ce soir, moi, c'est plus ce que j'ai vu devant, quoi, qui m'a perturbé.
Alors après, ce qui est quand même dingue entre les deux, c'est que Lille m'a fait effectivement bien meilleure impression que Marseille.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ce qui me gêne, enfin, je m'y attendais un peu, honnêtement, pour Marseille, mais Je suis d'accord avec toi, ils s'en sortent très très bien. Alors ils font une bonne entrée d'Unai et bonne deuxième mi-temps.
C'est vrai.
Donc finalement, il faudra en parler parce que Harit effectivement rate beaucoup de choses dans la première période. Il rate tous
les mauvais choix,
les choix trop lents. Et puis alors les erreurs techniques. Alors des deux côtés, hein, Benfica OM, c'était pas un très grand match de Coupe d'Europe.
Alors qu'au début, t'as le sentiment que Benfica est vraiment au-dessus techniquement.
Ouais, c'est
et que si
cas.
Ça se met en route, ils peuvent les rouler. Hein.
C'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est une équipe aussi qui doute et tout. Donc ce sont deux équipes qui sont pas forcément sûres d'elles, mais quand même, l'OM m'a fait très très peur, puisque quand j'ai vu qu'Harit n'arrivait pas à faire la diff, qu'Aubameyang était donc même pas trouvé dans un premier temps, donc on le voyait pas, mais il n'était pas trouvé, que derrière ça commençait effectivement à être compliqué, qu'ils ont perdu Merlin, tu te dis ça sent la soirée catastrophe. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître, Gasset a changé pas mal de choses. Les changements ont eu de l'importance. Et Unai, je tiens, puisqu'on l'a beaucoup démonté,
il a une très bonne entrée, pas seulement sur le but.
Hein. Il a été plutôt bon. Et donc
après,
il y a quelques motifs d'espoir.
En fin de match, tu fais pas rentrer Mbanya pour créer un peu de danger.
Alors là, ça va être à ton crédit. Alors là, sa titularisation, le fait qu'il ait titularisé était une surprise. Et le fait qu'il sorte.
T'as perdu du temps dans le match parce que du coup, t'as été obligé de décaler Aubameyang et tout.
Non, mais là, c'est là que.
Peut-être, en même temps, peut-être qu'un jour, il sera bon. Hein.
Ouais, enfin, la vérité, c'est que s'il fait ça.
Il a même déjà marqué pour l'OM, je te signale.
Ouais, je crois deux buts en plus. Hein. C'est pas rien.
Typiquement, dans ses effectifs insuffisants. Le coach ne cesse de tourner dans tous les sens, tu sais, pour essayer. Il se dit Ndiaye, c'est pas génial non plus, donc je vais changer. Mbanya, il le tente. Bon, ça le fait pas non plus, c'est clair. Donc, la faiblesse technique
c'est
de ce match.
De se dire qu'on va tenter quand même. Alors, je peux préciser, je sors de la blague récurrente autour de Mbanya. Je sors de la blague. C'est costaud quand même de se dire que sur ce match-là, avec le peu d'expérience, les performances qu'il a. Il a montré depuis qu'il est arrivé.
Mbanya,
tu vas à Benfica, tu le mets titulaire, donc ça t'oblige à. Bon, Aubameyang, on peut pas dire que ça le perturbe énormément de toute façon, et ça lui arrive souvent de pas être le neuf. Je trouve que c'est un choix un petit peu bizarre que il rectifie immédiatement à la pause. Ok, très bien, c'est toujours bien de rectifier et de constater que t'as fait une erreur. On peut aussi dire que t'as perdu du temps.
Ouais, mais Daniel, le problème c'est qu'en fait est-ce qu'il est vraiment meilleur? Quand tu vois Ndiaye en ce moment, ce qu'il fait et la rentrée qu'il fait.
Moi, je comprends,
j'ai réagi. Pourquoi Mbanya, tu vois? Et puis.
Au bout d'un moment,
autant Ounaï fait une bonne rentrée, mais Ndiaye non.
Moment, et ça va devenir un peu le débat du moment, autour, puisque maintenant les débats autour des entraîneurs et que tout le monde se casse la tête avec les tactiques et tout, comme jamais auparavant. Et écoute, à un moment, tu fais une analyse de ton effectif. Et s'il faut faire des trucs simples dans la vie, parce que t'as pas des forces vives, parce que t'estimes que t'as des problèmes quelque part.
Ouais, mais ce que dit Gilbert.
À un moment, fais du simple.
Non, mais le problème, c'est qu'il
simple,
a pas d'évidence.
Je vais te le dire, le simple. Le simple, puisque.
Là, il a le choix entre des mecs moyens.
Ouais. Je te signale. Bah alors, attendez, je vais vous soumettre quelque chose. Ils en sont quoi? 5 défaites de suite, quand même, là? Parce que ce soir, mine de rien, ils ont perdu. Hein, ils ont perdu. Ils sont sur une série de défaites. Ça va pas. Ils trouvent pas la bonne animation. Machin. Bah, écoute, mon vieux, tu mets Aubameyang tout seul devant. Fais un milieu renforcé à 5.
Sauf qu'on a vu que ça marchait pas non plus avant. Non, fais un truc
un peu plus simple où tu sécurises, parce qu'au milieu, de toute façon, tes mecs sont pas assez forts.
Ouais, d'accord.
Tes mecs sont pas assez forts pour développer quelque chose. On n'arrive pas à développer le jeu.
Non, le seul truc
qu'il a voulu faire,
parce que ton option, elle n'est pas valable, parce que Aubameyang seul, ça n'a pas marché. Tu l'as mis seul.
Si tu mets Harit à côté de lui, c'est vrai qu'Ounaï, de toute façon, vu ce qu'il t'a montré, tu peux pas non plus compter sur lui.
Franchement, je pense qu'il s'est simplement dit, avec ce système-là, je vais essayer de mettre une pression au moins sur un pivot avec dans la surface de Benfica, essayer d'aller les perturber à ce niveau-là. J'imagine.
Mais enfin, quand tu vois Mbanya, quand tu vois Ndiaye, tu vois bien que ces attaquants sont pas bons. Donc essaye d'avoir un peu de maîtrise en renforçant ton milieu, j'en sais rien, pour pas te faire trouer comme tu t'es fait trouer en première période où toutes les passes en profondeur elles déchiraient le milieu. À un moment, si tu vois que ça va être compliqué pour toi d'aller gagner le match. Bon, bah écoute, tu reviens à des trucs un peu artisanaux, à l'ancienne, ou de toute façon, il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Vous comprenez une tactique, vous, dans ce que fait l'OM? Vous arrivez à comprendre des schémas de jeu, des trucs? Non, c'est un peu du pouce-ballon. Bon, il y a eu une bonne récupération, un bon ballon en profondeur. Quant à Aubameyang, qui de toute façon arrive toujours à tirer son épingle du jeu, il t'a collé un but, très bien. De toute façon, il n'y a pas vraiment de tactique à l'OM.
Mais c'est pour ça.
Vous comprenez quelque chose? Il y a un truc qui est cohérent? Non. Alors fais un truc à l'arrache, là, avec.
Ouais, mais son truc à l'arrache, comme il n'a pas de solution idéale, il est quand même obligé de tenter des trucs. Et si tu veux, après, le vrai problème aussi, c'est qu'à force, là, Gasquet. Luis Enrique, c'est pareil, il l'a mis à toutes les sauces. Donc le mec, il ne sait plus comment jouer au foot. Alors je dis pas que c'est un très bon joueur de foot, hein. Je pense pas que ce soit un mec incroyable, mais je comprends aussi que les mecs, après avoir été baladés.
C'est bien de changer les joueurs de place et tout sans
quand
arrêt.
Quand ils sont bons, ouais, quand ils sont intelligents et bons. Ouais, je pense qu'à Marseille, ils sont moins bons qu'à Paris, Daniel. Je suis désolé de te le dire.
Après, ils sont pas encore assez bons pour ça non plus.
Ouais, mais enfin, en tout cas, là, en l'occurrence, Luis Enrique, tu vois, le pauvre, je veux bien pareil. Tu sais, on pourrait les fracasser, les joueurs, parce que Boumbania, Luis Enrique, c'est très bien de les fracasser. Mais moi, je pense que surtout, l'OM a recruté des joueurs très moyens et trop moyens pour ça. Qu'en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est plutôt un bon tirage, je le confirme. Parce que je pense que Benfica est plus fort que l'OM, mais, tu vois, il y a 2-1, c'est jouable, t'es pas mort.
Oui, t'as vu, il y a pas un monde d'écart.
Alors que l'OM en France en ce moment, c'est comme tu l'as dit, 5e défaite de suite, c'est vraiment pas une bonne équipe.
Un monde d'écart. Sur la première mi-temps, il m'a semblé qu'on n'était pas loin du, sans être du monde d'écart,
il y avait 2 buts d'écart.
Une bonne partie des pays du monde, alors, si c'est pas tout le monde en entier. Et j'ai cru qu'il pouvait se faire déchirer 3-0, parce qu'en plus, Benfica jouait sans forcer. Et après, quand il y a eu le 2-0, le but de Di Maria, là, c'était tellement une régalade dans la surface que je me suis dit ça peut finir très très mal. Et puis Benfica, c'est pas qu'il y a pas un monde, c'est qu'ils ont baissé totalement en intensité. Ça leur a fait perdre les pédales, même d'un point de vue technique. Et c'est là qu'on l'OM s'est remis à exister.
Non, mais y a des
Est-ce
choses,
que sur un match retour, ils peuvent leur mettre le feu? Comment ils vont le mettre le feu? Ça peut être qu'un feu un peu physique. Ça peut être qu'une espèce de rouleau compresseur qu'ils peuvent mettre, ça peut être qu'ils peuvent le gagner que dans le combat, ce match. C'est pas techniquement qu'ils vont le gagner, de toute façon, l'OM.
C'est sûr que non.
Donc, il va falloir y aller comme ça. Il y a pas de match ce week-end. Il va falloir qu'ils bossent. Et ça va être, en poussant physiquement, quoi. En mettant une pression, une grosse, grosse intensité. Il y a que comme ça que l'OM peut faire basculer, la double confrontation.
Ruben est là, les gars. 32-16 supporters à Marseille. Ruben, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, tu gardes espoir pour le retour?
Oui et non. Hein. Le scénario fait que ça nous permet d'avoir un petit peu espoir, mais après quand on regarde le match un peu plus en profondeur et sur l'aspect un peu technique, tactique, je pense qu'on a assisté au pire match de Coupe d'Europe sur le plateau, que ce soit Ligue Europa et des champions confondus. Il n'y a qu'à voir les résultats de la réaction des supporters de Benfica qui eux-mêmes sifflent. Après, au niveau d'état d'esprit, c'est un peu mieux. Enfin, c'est un peu mieux. En soi, on peut jamais leur en vouloir. C'est leur niveau. C'est le niveau des joueurs en eux-mêmes. Mais ouais, pour le retour, peut-être récupérer quelques blessés, mais t'en perds encore. T'as Merlin qui sort sûrement sur blessure grave. À voir pour le retour. Après, les joueurs, ils ont une semaine pour récupérer. Peut-être dans un stade rempli, peut-être que ça va un peu les motiver. En face, Benfica, c'est pas spécialement fort non plus, que ce soit même mentalement, ils ont pas l'air d'avoir un gros mental de ce côté-là
le vrai souci, moi, ce qui me fait peur, c'est que de la pression, l'atmosphère, l'ambiance et tout, sur les premières minutes, tu peux le faire, tu peux les bouger défensivement. On l'a vu, Silva là sur le but marseillais, c'est pas non plus incroyable. Donc honnêtement, ils sont bougeables. Après, la réalité.
Oui, il y a quelques mecs. Casper Tengstedt.
Ouais, c'est ça.
Ils ont joué. Comment il s'appelle celui qui joue à Bordeaux là? Cornelius, m'a fait penser à Cornelius, ce gars.
Tengstedt là.
Ouais, Tengstedt.
Il y a une tradition de Suédois, Benfica.
Je pense que Di Maria, qui a joué quand même avec des mecs d'un autre calibre, il doit se dire mais celui-là.
Non, la réalité, ouais. C'est à Benfica, ce qui est meilleur et ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire peut-être la diff, c'est quand derrière, pour pas parler de Tengstedt, Di Maria, Rafa Silva, Neres, là, en revanche, ça, l'OM n'a pas.
Ouais.
Et là, t'es en dessous. Après, pour le reste. Tu peux leur mettre le feu, mais la réalité, c'est techniquement, notamment dans les derniers gestes, et c'est pour ça que Kounahi, c'est une bonne nouvelle s'il se remet à l'endroit. Techniquement, il y a tellement d'erreurs. Dès que c'est dans les pieds de joueurs comme Luis Enrique, Moumbagna et compagnie, Aminarit, c'est terminé.
Aminarit, il a raté
tout ce qu'il a voulu. Donc c'est vrai que moi, si techniquement, alors si en plus Harit, qui est un des rares bons joueurs techniques de cette équipe, se met à faire. Il a pêché pour deux raisons, mauvais choix et trop lent. trop lent dans ses choix. Donc c'est vrai que si Harit, en fait, t'as que Harit, éventuellement Unai et Aubameyang. Après derrière, a... Terminato et sinon milieu, effectivement, t'as Vertu et Kondogbia qui a fait un match correct là effectivement aujourd'hui, mais surtout Vertu. Mais voilà, c'est terminé. Donc tu joues avec 5-6 joueurs et devant, si c'est pas sur le bon, tu t'exposes à des erreurs techniques. Moi, c'est surtout ce déchet technique énorme qui me fait peur. Après, derrière, ils sont prenables aussi. Hein.
Après, il y a aussi le résultat de l'autre côté, hein, de l'autre partie de tableau, de la même partie de tableau.
Excusez-moi. Ah ben celui-là, il fait rêver pas mal de monde sur le direct studio, parce que tout le monde se dit, l'Atalanta, c'est pas Liverpool.
Mais final, on peut arrêter de rêver sur les parties de tableau. Avant le tirage du PSG, on tripait sur la partie de tableau.
À partir du moment où tu as un tableau, tout le monde regarde.
C'est Liverpool que Atalanta.
Mais tu sais que l'histoire des tableaux, c'était pas la tradition du foot. Et tout le monde sait à quel point je suis le tennis. Et cette histoire de tableau dans le tennis, ça a toujours été des pièges à cons. Tous les joueurs disaient toujours, arrêtez de regarder les tableaux. Il y avait des débats interminables là-dessus, sur les joueurs qui ne voulaient surtout pas les regarder, qui voulaient surtout pas savoir. C'est vraiment le truc qui est le pire piège. Donc c'est arrivé dans le foot, je le répète, c'était vraiment pas dans la tradition du foot de construire des tableaux comme ça. Ça fait quelques années que l'UEFA a sorti ce truc-là maintenant. Je pense qu'on devrait pas trop regarder, fantasmer sur les parties de tableau.
Après, en voyant
n'empêche que tout le monde regarde quand
même. À quoi l'OM pourrait se raccrocher, en soi, hormis ce qu'on peut voir sur le terrain. Parce que
Atalanta de Bergame qui met 3-0 à Liverpool, moi, j'ai pas très envie de les prendre non plus, quoi. Quand je suis l'OM avec mon paquet de déchets techniques, là, si tu veux, moi, honnêtement, avant le tirage, le seul vrai truc, c'est que, effectivement, Benfica était le moins pire. Je le pense toujours, ce soir. Mais après, quand tu as vu et tu as dit ce que tu as dit, et que tu as le déchet que tu as, et les absents, en plus, peut-être à venir avec Merlin, non, franchement, aller voir plus loin que la semaine prochaine, c'est hyper périlleux quand même.
Merci Ruben. Dans un instant, on continue le débat autour de l'OM. On fera une évaluation ensemble. On aura les réactions dans quelques minutes. Également, Marseille a perdu à Benfica 2-1. Tout à l'heure, on parlera de Lille qui a perdu à Aston Villa 2-1. Et puis les drôles de l'âme seront là. Notamment Johan Crochet, parce que c'est le jeudi. Maintenant, c'est le soir de Johan. Hein. Il y a plein d'Italiens dans tous les sens. Il y a même un duel entre clubs italiens. Milan-Roma ce soir. La Roma a gagné 1-0. Tout à l'heure, les drôles de l'âme seront avec nous. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h19, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là également. On analyse le match de l'OM pour l'instant avant de passer à Lille tout à l'heure. J'ai pas envie de. C'est un jeudi noir, mais j'ai pas envie de dire que c'est un jeudi noir en fait. Vous voyez, je sais pas si.
De défaite, Gilbert. Tu veux attendre la semaine prochaine parce que tu te dis.
Alors, t'aurais perdu 3-0, tu vois.
Très curieusement, tu as beaucoup plus de Marseillais pessimistes ce soir qui ne croient pas trop. Vu le contexte, j'imagine, global, au possible retournement de situation, alors que t'as plus de Parisiens optimistes avant le match retour
et de Lillois qui sont
Barcelone.
Les Lillois, je ne sais pas,
on va attendre, je n'ai pas vu réellement de tendance.
Mais les Lillois, ils ont plus de raisons d'être optimistes. Oui. Par rapport au match, j'entends, parce que moi, je suis très surpris pour le coup.
Les Parisiens jouent à l'extérieur, les Marseillais à domicile. Bon.
Alors les Lillois, c'est ceux qui ont eu des trois équipes le jeu le plus cohérent,
la meilleure attitude
et même le jeu le plus cohérent. Ouais. Néanmoins, ça, c'est dingue, ils ont malheureusement également le profil à manger des regrets. Parce qu'il leur manque quelque chose dans la finition, un côté tueur. Cette équipe est parfois un peu naïve. Est-ce que c'est un manque d'expérience? Oui, d'abord, probablement que c'est ça. Ce n'est pas des joueurs très chevronnés. Mais je répète, il y a cette façon de bien jouer et de mal finir les actions qui est assez récurrente.
C'est vrai, mais là...
Ils ont le profil pour nous sortir un gros match la semaine prochaine, pour qu'on y croit. Et pour finir un peu avec des regrets. J'espère pas, hein, parce que c'est des trois l'équipe qui mérite le plus.
Ce qui est bien ce soir, par rapport aux autres d'ailleurs, c'est de voir que cette équipe-là, dans les intentions, elle y allait pour gagner, elle y allait pour faire un résultat. Tu peux pas avoir de regrets, effectivement, si ce n'est que tu as raté tes occasions, mais tu as eu des occasions, tu as été à la hauteur, tu as regardé les Aston Villa dans les yeux. Franchement, c'est pas dit avant, quoi. J'aurais pas parié forcément sur ce type de match.
Ouais.
Après, honnêtement, Dibu Martinez a été très bon parce que certes ils ont raté leur face à face, mais il a été plutôt bon. Il leur a mangé la tête.
C'est un très très bon gardien.
Ça a joué aussi.
Toujours été un très bon gardien.
Je suis assez d'accord avec toi. Le 9 de même David, effectivement, n'est pas toujours 100% efficace.
Ah oui, c'est ça.
Cheikh Bella, supporter marseillais. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bon, est-ce qu'il faut... Bah, alors, je rappelle que les clubs, là, ne jouent pas ce week-end en championnat. Hein, bon, vous le savez tous. Est-ce que là, il faut mettre Aubameyang, je sais pas, au vert, dans la glace? Parce que j'ai l'impression que ça peut passer que par lui, en fait, non, une éventuelle qualif.
On le met dans un coffre-fort et on n'y touche plus. Ouais. Donc moi, déjà, je fais partie plutôt des Marseillais optimistes. Et attention, hein, pas parce qu'on a montré de belles choses, mais plus parce que je trouve que Benfica a été assez faible. Moi, je pensais que c'était un accident ce qui s'était passé face à Toulouse, mais j'ai été surpris en fait du niveau vraiment bas de Benfica, qui a totalement abandonné le match dès qu'ils se sont mangés un but. Donc moi, c'est quelque chose qui me donne plutôt espoir. Même si on n'est pas bon à domicile, on sait faire des choses. Mais ce soir, moi, je trouve qu'on a perdu le match sur deux aspects importants. Le premier, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de nos joueurs. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais en fait, s'il y a deux, on a l'impression qu'on a deux équipes. On a Balerdi, Aubameyang, Veretout, qui sont motivés, qui font des pressings, les bons appels.
J'équipe, je te coupe, il y a Jean-Louis Gasset qui s'exprime là. On va écouter et après on reprend.
Okay. Premièrement, d'orgueil, d'envie. Et pour dire on ne veut pas quitter cette compétition.
Avec aussi beaucoup de caractère, parce que les péripéties, elles sont nombreuses cette saison. Vous l'avez dit, la blessure de Quentin Marlin. De votre côté, il faut inventer, il faut trouver des solutions.
On a changé 3 ou 4 fois de tactique dans le match. De 4 à 3, de 3 à 4. Il fallait s'adapter et être rapide, parce qu'en face, on avait une belle équipe.
J'en parlais avec Pierre-Emerick Aubameyang à l'instant. Il y avait aussi beaucoup de coups à jouer qui parfois, notamment en première période, ont été faits avec peut-être moins de précision. Est-ce que ce sera la clé du match retour d'être plus tueur dans les 20 derniers mètres?
C'est le petit reproche qu'on peut faire à la première mi-temps, parce que ça se déroulait comme on voulait. Et on avait des balles de contre qu'on a mal négociées par manque de lucidité ou... de manque de technique à des moments ou de lucidité. Donc c'est le reproche qu'on peut faire, mais la deuxième mi-temps compensée.
Dernier mot, Jean-Louis, au Vélodrome, il y a eu des gros matchs en Coupe d'Europe, pas mal de buts aussi. Ce sera votre atout fort pour rééditer des performances comme contre le Shakhtar, comme contre Villarreal. Vous y croyez vraiment?
Bien sûr, on avait dit de faire un score qui était confortable. C'est vrai qu'on a perdu le match, mais on est en vie. Et devant nos supporters, je pense qu'on va tout donner avec eux.
Merci coach.
Voilà pour Jean-Louis Gasset. Oui, il y a un truc qu'on a vu à la fin du match quand même. Parce que bon, les spectateurs à Lisbonne sont quand même des spécialistes du football qui ont vu des générations d'équipes de Benfica. Grosse bronca à la fin. Donc ça veut dire que même dans le stade de la Lumière, on sait que ça peut être une belle performance.
Mais voilà. C'est vrai que quand tu vois le début du match, Benfica aurait dû, effectivement, sembler plus fort. Ensuite, beaucoup d'erreurs techniques. Donc oui, effectivement, tu as raison. Public de spécialistes qui à la fin voit pas la victoire mais voit l'occasion manquée quoi en fait, et c'est vrai. Il y a une équipe normalement qui est un peu plus forte que l'autre, mais c'est vrai que si tu regardes leur dernier match et notamment Toulouse, la confrontation de Benfica, c'est pour ça que je disais que c'était un bon tirage.
Ouais, Toulouse, ils leur ont posé pas mal de
beaucoup,
problèmes.
Et les Rangers aussi. Donc en fait, oui, si tu
Rangers,
veux,
c'est une bonne équipe.
Oui, mais donc si tu veux, cette équipe-là, elle a été très très challengée par tous ses adversaires. Il faut pas faire de complexe.
Après, il faut pas faire de complexe. Et d'ailleurs, le ton de Jean-Louis Gasset a bien changé, parce que j'imagine que la deuxième mi-temps a dû au minimum, je ne sais pas si ça l'a rassuré, mais lui donner un petit espoir entre les mots suite à la défaite à Lille, où il a été très dur en disant qu'il avait limite que c'était une prestation honteuse. Je crois même pas limite, je crois qu'il a vraiment dit ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a eu une petite secousse en seconde période. Ça a dû lui plaire. Ils ont une semaine pour préparer le match. Comme je l'ai dit, c'est probablement pas techniquement qu'ils seront supérieurs, mais ils peuvent leur foutre une grosse pression. Et pourquoi pas tenter ce qui, à mon sens, serait un exploit. Parce que pour une équipe française, sortir Benfica en aller-retour, c'est quasi du jamais vu. Je sais même pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs de sortir Benfica.
En tout cas, aucun club français n'a gagné.
Mais les sortir en aller-retour, je crois même pas.
Aucun club français n'a gagné là-bas, ça c'est sûr.
Oui, mais ça, de toute façon, leur dernière défaite, elle est à 2008, même à la maison. Benfica, ils perdent jamais. Mais en aller-retour, je sais même pas si c'est un club français qui l'a déjà fait. Bon.
Je crois qu'ils ont un autre record, c'est le nombre de participations au quart de finale de l'Europa League. Benfica, je crois que c'était la 6e fois.
Et alors, Marseille, j'ai vu cette stat cet après-midi, a participé 10 fois à des quarts de finale de Coupe d'Europe et n'a été éliminé que 2 fois. C'est assez étonnant. C'est un stade de la compète. Bon, je ne veux pas dire grand-chose en fait, mais bon, c'est malgré tout. Seulement deux éliminations. Bref, Chekib de retour, excuse-nous, on t'a coupé pour gasser.
Ouais,
donc tu peux reprendre.
Pas de souci. Bah justement, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit, le coach Gassé. Alors bon, voilà pour l'état d'esprit. Juste pour conclure, je trouve que il y a un gros problème parce qu'on voit les joueurs qui en veulent, qui mettent le pressing, qui sont là et qui ont l'envie, et on voit d'autres qui ne prennent pas leurs responsabilités. Vous trouvez qu'Ondogbia a fait ce qu'il fallait ? Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un.
T'as l'impression qu'il y a des mecs qui ont pas joué un match de Coupe d'Europe, quoi. C'est ce que tu veux dire ?
C'est exactement
un peu
ça,
comme hier soir concernant certains joueurs du PSG, quoi. Voilà.
Eh ben exactement, c'est exactement ça. Il y en a qui ont eu peur, comme Harit, qui est un peu notre Dembélé à nous.
Harit, il a une belle occasion, hein. À un moment sur le côté là, la reprise de pourri qu'il fait.
Oh, ah ouais, le deuxième poteau, la frappe ouais, du gauche, mais c'est même pas celle-là qui me choque le plus. Moi, c'est vraiment la passe, le contrôle orienté magnifique et la passe, mais le manque de lucidité, mais fou quoi. Mais enfin bon. Et le deuxième point le plus important pour moi, c'est l'aspect tactique. Il y a un moment donné, voilà, on sort d'une année catastrophique avec Gattuso. Là, on essaye de réparer un peu cette saison. On fait avec ce qu'on a. Il faut qu'on joue avec nos armes. Je suis désolé, mais on ne sait pas jouer. On ne sait pas proposer du jeu. On n'a pas un milieu de terrain qui est capable de proposer du jeu. Donc, à un moment donné, il faut cadenasser. S'il faut jouer bloc bas, n'ayons pas honte. Ce sont nos forces. Si on doit défendre bas et qu'on doit miser sur la vitesse de Luis Enrique, Aubameyang et Mbanya, même si bon, Mbanya, je vais pas chauffer Daniel là-dessus.
Il n'y a pas besoin de me chauffer là-dessus. Tu vois que je rigole en fait là-dessus. Rire.
C'est ridicule parce qu'en fait on lui donne une chance toutes les semaines et là on lui donne une chance en quart de finale. On comprend pas. Je comprends même pas le profil du joueur qui est soi-disant solide, rapide, mais qui ne sert à rien, qui pose même pas le pied sur le ballon. Et Gassé l'a dit, on est passé par 3-4 systèmes de jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, au bout d'un moment, il n'y a pas de repère, on ne sait plus quoi faire, et dès qu'on essaye de proposer du jeu, on se fait ouvrir comme à Lille.
Ah ça, c'est sûr que si tu changes 3 fois de système dans le même match, c'est qu'il y a un problème. Ça semble évident. Bon.
C'est clair.
Merci, Chekib.
Merci à vous, les gars.
Bonne soirée.
Le seul truc que je mets au crédit de Gassé, justement, quand même, c'est que, effectivement, il s'est adapté. Les changements aussi. Effectivement, ils étaient rapides. Tu peux pas les faire forcément. Enfin, tu peux les faire avant le 45e, mais souvent ils attendent la mi-temps. Ils s'en sont sortis quand même par rapport à un début de match qui était raté. Donc, faut lui mettre ça aussi à son crédit. Je pense que sa compo effectivement de départ était pas la meilleure. Il évolue. Derrière, c'est mieux. Et je te le dis dans les points positifs, il y a Unai qui fait une très bonne entrée. Là, t'es dans le désert que tu as là depuis quelques matchs à Marseille. Tu dois voir les points. Tu dois chercher les points positifs.
Oui, hein. Et puis Mbemba est sorti, donc il revenait de blessure, donc sans doute qu'il pouvait pas jouer. C'est ça. Dès qu'il est pas là, tu vois tout de suite la différence aussi. Hein. Bon. On continue le débat autour de l'OM dans quelques instants et ensuite on passera à Lille. Les drôles de l'âme seront là. Et puis, d'ici minute 30, on écoutera Christophe Dugarry, qui était très, 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 très énervé après Luis Enrique et Kylian Mbappé tout à l'heure dans Rotten sans flamme.
Ah, il a fait le duo.
Ah, il a mis les deux dans le même, dans le même panier. Et il a tout sulfaté.
Il a dit que Luis Enrique aussi était responsable de réchauffement climatique, de la guerre en Ukraine, non, c'est
un peu. Non, il n'est pas allé jusque-là.
De foot.
Non.
Mais il aurait pu.
Hein. Il était parti comme il était parti.
Bon, ce sera tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans quelques instants dans l'after.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h33, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là également. L'Europa League au programme avant la Conférence League, l'OM avec une évaluation. On va conclure sur l'OM là-dessus avec Elias qui est là. Bonsoir Elias.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bon, tu voulais parler d'Harit, je crois.
On va commencer sur Harit. Pour moi, c'est un joueur qui n'a absolument rien à faire à l'OM. Il serait très bien dans une équipe comme Lorient, et encore, j'ai la prétention de dire ça, mais j'en suis même pas sûr. C'est égoïste, ça lève pas la tête du ballon, ça a toujours la tête dans le guidon, c'est catastrophique, toujours les mauvais choix. Et en plus, ça a un comportement sur le terrain de star. Et ça m'énerve encore plus. Quand tu n'as rien prouvé, que tu n'as rien fait à l'heure actuelle dans ta carrière, ou tu n'as pas été, on va dire, dans un top club, ou au moins un club européen qui pèse, et que tu te comportes sur le terrain comme tu te comportes, j'arrive pas à l'accepter. Honnêtement, j'arrive pas à l'accepter.
Bon.
ne peut que aller dans ton sens et de toute façon constater que oui, c'est une déception match après match, quoi. Alors oui, et dans un premier temps, il y avait l'excuse de la blessure, grosse blessure, et tu reviens jamais facilement. Mais là, c'est, en fait, c'est pénible parce que quand tu dis blessure, bon, ça te diminue physiquement. Mais quand t'avances vers le but, que tu réussis un bon décalage et qu'après tu fais le mauvais choix sur la passe, que tu fais tout le temps le mauvais choix, là je sais pas en quoi la blessure t'handicape vraiment. Tu vois, ça c'est de l'intelligence de jeu, le faire le choix. Si tu me dis il a pas réussi à déborder le mec, il a pas réussi, il était fatigué à la 60e, eh bien, bon ok d'accord, là l'excuse de je suis pas en forme, je reviens de blessure, ok. Mais lui c'est trop souvent le mauvais choix, quoi. Ça c'est dur, quoi, de faire à chaque fois le mauvais choix alors que techniquement c'est quand même un joueur qui a des qualités. C'est ça qui rend Harry très décevant.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniel. Et il a un peu ce côté encore football quartier, tu vois, de vouloir faire toujours la différence un peu tout seul, un peu
ouais, c'est vrai,
comme
un
quand
peu.
Tu joues dans le quartier entre deux bancs. Et ouais. Mais bon, donc ça. Après, honnêtement, j'ai constaté aussi un manque d'envie en termes général de l'équipe. Moi, je suis désolé, mais il me semble
sur
que
sur la deuxième mi-temps, l'OM a quand même eu une attitude correcte.
Ça a été
correcte,
un peu mieux,
vraiment.
Mais ça a été timoré quand même. Hein, honnêtement,
mais timoré moi, parce qu'ils ont pas confiance en eux, dans leur jeu, parce qu'il y a pas de jeu qui est mis en place, parce que techniquement, il y a beaucoup de failles. Donc après, oui, t'as des joueurs qui quand même donnent l'exemple, qui sont au combat en permanence. Après, je pense qu'il, moi, je pense que sur l'attitude, il y a pas grand-chose à leur reprocher. C'est plus que le jeu de l'équipe ne ressemble à rien. Je sais pas te dire comment c'est construit, qu'est-ce qui veut ressortir de l'idée de Gasset. Je comprends pas. Voilà.
Non, moi, je suis un peu d'accord. Je suis assez d'accord avec Daniel. Moi, je trouve que techniquement, c'est faible, très trop faible. Mais après, dans l'attitude, c'est plutôt une équipe de Marseille valeureuse. C'est pas, t'as pas de scandale absolu. Le niveau sur Harit, t'as raison, c'est plus du QI foot. Mais après, quand je vois des joueurs ce soir, même comme Kondogbia, Vertu, Aubameyang de sa façon, tu vois, Mbemba, bah, les mecs, ils ont fait leur match.
Balerdi,
tout à fait. Gigot, si tu veux, tous les mecs ont fait les efforts. Donc moi, c'est pas trop ça le problème.
Après,
malheureusement,
avec leurs limites.
Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de limites.
Mais c'est ça.
C'est une équipe. Si
mais c'est pour ça que cette idée de l'état d'esprit, il faut faire attention quand on parle de l'état d'esprit. C'est en fonction des qualités que tu as à mettre à côté de ça. L'état d'esprit, ça semble être le minimum que tu dois mettre sur un terrain et encore plus en Coupe d'Europe. Mais il faut que ce soit suivi de quelque chose, l'état d'esprit. Un mec comme Gigot, l'état d'esprit, il ne sera jamais défaillant en état d'esprit. Après qu'il ait des limites, footballistiques, techniques, ça, on le constate, ça.
Mais après, tu sais, c'est aussi. J'entends beaucoup. Ah, ce gars-là, il n'est pas digne de l'OM, il n'est pas fait, il n'a pas les épaules pour. Mais là, le problème, c'est que cette équipe de l'OM, elle n'a pas vraiment les épaules pour aller jouer à un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc, tu vois, moi, c'est ce que je dis depuis le départ, taper sur les joueurs, ok. Les joueurs, ils sont là, la plupart, ils se dépouillent, et la majorité sont limités, ok. Mais tu vois, c'est tout simplement parce que c'est pas une grande équipe de l'OM. Attends, au passage, quand même, alors je félicite les supporters qui nous ont appelés. Mais et moi je fais jamais normalement référence à l'arbitrage, mais je pense qu'il y avait quand même un péno sur Aubameyang sur le carré passage.
Indiscutable.
Oui, alors il y a VAR et tout. Je sais pas si c'est indiscutable parce qu'au début j'ai cru.
Bah c'est pas un duel à l'épaule ça.
En fait, il se tamponne.
Enfin, il y en a un qui tamponne l'autre plutôt.
L'autre vient vraiment pour prendre le ballon et le tamponne. Je sais pas si c'est
alors,
si net
pour,
quoi.
Pour moi si
ça
tu veux
pas choqué s'il avait
moi,
donné.
Pour moi il y a péno. Et si tu veux, c'est derrière, je serais entraîneur de Benfica, je dirais mais qu'est-ce que t'as foutu quoi, parce qu'un péno inutile entre guillemets, enfin une faute qui est évitable. Mais pour moi, il y a faute. Elle est tellement énorme que je sais pas si elle a été checkée. Si elle a été checkée,
oui, c'est tout checké. Oui. Ouais.
Bon, écoute, les arbitres ont considéré qu'il n'y avait pas de débat. Mais bon, voilà, on n'a pas entendu parler du côté de l'OM.
Après, messieurs, si je peux me permettre de revenir sur le côté envie, quand je disais envie, c'est plus l'aspect pressing. C'est-à-dire qu'on est une équipe, comme vous dites, on est faible techniquement, et ça, c'est indéniable, hein, ça se voit, c'est criard. Par contre, voilà, c'est le côté pressing. Si on presse haut, pour moi, on récupère le ballon. Et les derniers bons résultats de l'OM, c'était ça. Il y a eu un pressing lancé sur les 30 derniers mètres adverses. Et quand tu joues pas, ben voilà, le Barça, le PSG ou Manchester City, à chaque fois, la plupart du temps, t'arrives à récupérer le ballon plus haut et de pas te mettre justement en danger sur des phases défensives. Et tu peux te créer des plus grosses occasions, pour moi, plus haut.
Tu penses quoi de Ndiaye?
C'est comme toute l'attaque marseillaise, en dehors d'Aubameyang qui essaye, mais même Aubameyang, c'est timoré, et en plus il y a une grosse manque de créativité au milieu de terrain.
Mais Aubameyang, en dehors de son but où il te rappelle que c'est un mec qui peut faire des diffs et tout, il fait pas un bon match du tout.
Non, il fait pas un bon match du tout.
On est en train de se dire waouh, même lui est pas bon ce soir, quoi.
Ah ouais, clairement. Mais après, j'en vois pas un que tu peux retirer largement du lot ce soir, hein, dans toute l'équipe.
C'est vrai, toujours Veretout, toujours les mecs qui se défoncent, qui cavalent, qui font le max, quoi. Ouais, si, ça. Donc,
Veretout, et je sortirais quand même, pour le coup, Unai, parce que ça a changé quelque chose. C'est-à-dire que pour une fois, c'est tout l'inverse de ce qu'on dit de lui. Et à l'inverse d'Harit, de tout ce que tu as dit sur Harit, qui était assez juste sur le côté je baisse la tête, j'ai la tête dans le guidon, il a donné le ballon très vite. Il a plutôt essayé d'aller contrôler vers l'avant. Je sais que Bennacer lui parle beaucoup, qu'il est très déçu aussi de ses prestations. Donc peut-être que tout ça va infuser. On dit que dans l'attitude, il n'est pas toujours au top, etc. Donc je ne sais pas si ça peut, s'il peut évoluer ou pas. Mais en tout cas, ce soir, faut le dire, c'est lui qui, à mon avis, en entrant, a fait en partie la diff. Et d'ailleurs, cette passe très rapide et très belle pour Aubameyang, elle fait la diff. Bon, il y a l'erreur comme du défenseur de Benfica, hein, qui était tellement sûr de lui qu'il a pas bien défendu. Ouais. Mais voilà, c'est moi. Il y a quelques petites choses comme ça. Et surtout, de toute façon, ce joueur-là qui est plus technique que la moyenne de tous les autres, tu vois. C'est vrai que t'as plutôt envie de voir quand même un gars, s'il se met la tête à l'endroit, un gars comme Unai, que des gars comme Luis Enrique, quoi.
Ah, c'est clair.
Merci, Elias.
Merci à vous, messieurs. Si je peux rajouter un dernier petit truc. Pour moi, Payet nous manque quand même sur la dernière demi-heure, en termes de créativité.
Ouais.
Là, je sais pas quoi te dire, là. Ça, là, vraiment.
Et Correa, il est
blessé derrière Correa.
Ouais, en plus.
Et Correa, il sort pas du banc.
Jamais.
Non, mais c'est impressionnant. Ouais, t'as vu qu'il a utilisé trois remplacements. Il a utilisé trois remplacements. C'est te dire qu'il croit pas en son banc.
Je pense encore à lui.
Non, mais
on est dans l'échec total.
Je regardais le banc de touche.
Les attaquants, le secteur offensif, recrutement du secteur offensif.
C'est où Mbagné à titulaire, en fait.
C'était cataclysmique, quand même. Bien sûr. À l'OM. De Sarr à Ndiaye, Mbagné.
Dans la série des bonnes surprises du soir, j'aime bien le petit qui est rentré sur l'eau. Et c'est pas la première fois, donc je suis obligé de trouver. Je repère les prospects.
Le protégé de Kevin Diaz.
Il
a été formé dans son groupe. Il est parti de son groupe.
Pour d'autres raisons, j'ai bien aimé. Déjà, dans l'attitude de rentrer dans un match comme ça de Coupe d'Europe, j'ai trouvé pas du tout impressionné. Et c'est pas la première fois que je le remarque. Donc je suis en train de chercher sur le banc tous les mecs qui ont été bons. Et en fait, finalement, Unai et Soglo, c'est pas mal.
Alors, deux petites infos marseillaises en plus. Donc Merlin sorti. Alors, on parle d'une grosse entorse à la cheville. On a craint à un moment que ce soit le genou, mais Florent Germain nous fait savoir là c'est cheville. En l'occurrence. Et puis donc, vous avez suivi aujourd'hui que l'affaire des supporters finalement est rentrée dans l'ordre et que donc c'est finalement de France qui est venu le dénouement de cette affaire. Et donc les supporters marseillais ont pu assister au match. C'est quand même un imbroglio. Assez fou là pendant trois jours, c'est quand même dommage d'en arriver là et que c'est finalement le jour même que les choses se dénouent. Enfin voilà, donc tout est rentré dans l'ordre finalement. Les Marseillais ont pu assister au match et il y aura des supporters de Benfica au stade Vélodrome.
Et Pablo Longoria aussi donc.
Et Pablo Longoria
était là d'ailleurs.
Ouais. Avec sa moustache en accent circonflexe.
C'est à la mode d'ailleurs.
La moustache ou l'accent
La moustache, c'est vraiment quelque chose qui est revenu. Là.
Totalement.
Regarde Beraldo. 20 ans, là, sache-moi.
Ouais, c'est bizarre. Hein.
Tu devrais y penser, j'y bien.
Ouais. Vous croyez? Ça tirait bien.
Hein. Si un jour, t'as une soirée importante, un truc, je sais pas, moi, un spectacle ou quoi, pense à la moustache.
Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, je fais un petit coucou à tous ceux qui seront demain soir avec nous au Trianon. On n'aura pas le temps de se laisser pousser la moustache.
Ouais, d'ici
là.
Demain, c'est chaud.
Ça, merde, je me disais, tu vas pas avoir le
temps. Un postiche. Voilà, bah, demain soir, on sera au Trianon avec vous tous, enfin, avec ceux qui sont. Qui ont pris leur place et on est impatients d'être avec vous demain soir. Dans un instant, Lille au programme. Ensuite, Christophe Dugarry qui donne son avis sur le match du PSG et les drôles de Dama tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h45, Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là. Tiens, avant de parler de Lille, je vous signale que nous faisons gagner ce soir un maillot du LOSC. Voilà, c'est cadeau de l'after. C'est très simple. Vous appelez le 32-16 maintenant. Le premier qui arrive dans les pads, dans les pieds, dans les oreilles de Max ou Adrien aura gagné son maillot du LOSC.
Le maillot boulanger ?
Le maillot, maillot New Balance, parce que c'est.
New Balance.
Oui, ça, c'est l'équipementier.
Ouais. Oui. Mais Boulanger, c'est. Oui,
c'est le sponsor.
Exactement. Bon, alors, Lille, qui doit avoir quand même quelques regrets, parce que vu le nombre d'occases, on en a touché un mot tout à l'heure, que les Lillois ont eu, sans doute qu'ils se disent, mince, on est passé à côté d'un truc.
Et je pense que les supporters lillois doivent être assez fiers de leur équipe. Je pense qu'ils voient l'équipe qu'ils voient en championnat quasiment chaque semaine maintenant, avec qualité, défaut. Là, comme le niveau s'est forcément élevé par rapport à la Ligue 1, il y a quelques défauts qui sont revenus. C'est toujours chiant quand je vois Zegrova, qu'on aime tant, qui est vraiment le mec qui fait la diff en ce moment. Quand on parlait de mauvais choix d'Harit, bon, lui, je pense qu'il est au niveau au-dessus, bien sûr. Mais pareil, il y a cette tendance à faire les mauvais choix qui est... des fois, c'est vraiment insupportable. Vraiment, le mauvais choix, c'est pénible. Avec la... Et les qualités qu'il a, c'est très souvent qu'on conclut à ça. Enfin, je pense qu'on dit autant qu'il est fort, autant qu'il est important, que autant, parfois, il est hyper frustrant.
Tiens, mais Julien Laurence est avec nous. Il était au stade. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert.
Il a peut-être été surpris, Julien, de voir Lille comme ça, non ?
Quelle vie, Julien Laurence, hier au Parc des Princes, ce soir à Birmingham. Ça va, tu tiens le coup ?
Ouais, très bien, très bien. Très, très bien. Non, mais c'était bien ce soir, j'ai trouvé. Hein. Mais j'ai suivi cette saison en Ligue 1, mais. Ils ont été un petit peu naïfs sur le premier but, par exemple, de Watkins. Enfin, deux buts sur coupé arrêté, déjà à ce niveau-là, tu peux pas. Et puis, les occasions ratées, surtout. Mais le meilleur joueur d'Aston Villa, c'était Emi Martinez ce soir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a fait quelques arrêts assez incroyables. J'étais un peu déçu par Jonathan David. J'attendais. C'était un test pour lui. Il y a beaucoup de clubs anglais qui regardaient ce soir avec attention ce qu'il allait pouvoir faire contre cette défense de Villa. Et au final, ça a été trop décevant, je dirais. Mais le but de Diakité change un petit peu la donne. Et au retour, avec 50 000 personnes dans ton stade derrière toi, tu peux leur mettre la pression aussi. Et comme on l'avait dit, on l'avait déjà annoncé dans l'after, cette équipe de Villa, elle n'est pas aussi forte qu'en début de saison, en première partie de saison.
Bah, ils sont quand même toujours au tableau. Hein. Bon,
oui, bien sûr, et puis Watkins. Oui, c'est mais tu rien. Vois, Watkins, c'est fort. Ben, c'est bien sûr que c'est fort. Devant, c'est fort aussi. Mais il ne presse pas aussi bien qu'avant. La blessure de Camara leur a fait du mal au milieu de terrain aussi. Et demain après le match aller, au moins il faut y croire. On était avec Stéphane Guy et Sébastien Piocel et le président Olivier Létang avant le match au bord du terrain, et c'est ce qu'il disait. Et voilà, ce qu'on veut, c'est au moins avoir une chance avant le match retour à domicile.
Bon, je rappelle que c'est la première fois dans l'histoire du LOSC que le club est en quart de finale de Coupe d'Europe. Enfin, c'est un niveau qui découvre tous.
Moi, ce que je trouve, surtout...
c'est pour ça que moi je veux pas dire jeudi noir ce soir.
Non, mais c'est
le quatrième de première ligue là.
Ouais, et je sais pas si Julien l'a ressenti, mais ils ont fait des erreurs par inexpérience, parce qu'ils ont pas d'expérience et ça s'est payé cash. En revanche, ils n'ont pas non plus péché par timidité. Ils ont été au niveau de. Ils ont été courageux. Ils ont voulu attaquer. Ils sont créé des occasions. Ils ont remis l'ouvrage sur le métier. Moi j'ai vraiment bien aimé l'attitude de Lille, avec en plus du talent dans certaines actions. Bon, voilà. Après, effectivement, j'ai trouvé Villa plus solide, plus malin, presque plus vicieux parfois. Et finalement, j'ai bien aimé aussi le fait que Diakité, il marque justement lui aussi sur un coup de pied arrêté. Et que même dans ce domaine-là, Lille a su se montrer à la hauteur. Donc, franchement, moi, des trois équipes françaises, c'est l'équipe qui m'a le plus séduit dans l'attitude pour ce type de match. Et j'avais égratigné cette Coupe d'Europe la dernière fois dans l'after quand Lille était passée. Mais là, c'est un vrai match.
Finalement, ça peut devenir sympa.
Non, mais en quart de finale, non, c'est une Coupe d'Europe, honnêtement, que je ne regarde là que vraiment qu'à partir des quarts de finale et qu'en plus, parce qu'il y a de belles affiches. Mais non, ça, je maintiens ce que je dis moi sur cette troisième Coupe d'Europe. Bon, je suis pas un fan du tout, mais peu importe. En revanche,
toi, t'aimes pas les petits pays, t'aimes pas
l'Arménien.
Quand on était petit, tu regardais pas la Coupe de l'UEFA.
Très peu. J'ai moi trop de matchs. Non, moi trop de matchs. Oui, quand il y avait les Français. Mais toi, j'étais pas.
Ça a toujours été ça, la Coupe d'Europe.
Ah, mais ce que je veux te
quand
dire,
c'est
que
16, 17, trop de matchs. 20 ans, 25 ans, tu regardais les Français en Coupe d'Europe.
Trop de matchs pour moi, non, trop de matchs.
C'est pas ma question.
Bah, si, parce que là, tu vois, ça regarde.
Non, parce que j'ai les souvenirs de Laval, tu regardes, t'as regardé.
Non, je t'explique pourquoi.
T'as regardé le PSG, t'as regardé Nantes.
Parce que la Ligue des Champions, pourquoi je dis trop de matchs? Parce que comme en Ligue des Champions, il y en avait beaucoup moins. Comme en C2, il y en avait beaucoup moins. Au final, il y en a beaucoup moins. T'as pas vu les nombres de matchs que tu dois te mater avant d'arriver à la C3? Tu regardes tous les matchs de poule de Ligue des Champions, là, en octobre, novembre. Après, tu regardes tous les matchs de poule de Ligue Europa. Après, non, c'est du délire.
Maintenant, même les matchs avec les équipes étrangères, tu les regardes. Quand on était plus jeune, on ne les regardait pas, ça passait pas. Tu regardais l'équipe française et basta.
Et c'est en ce sens.
Le City Real, il n'existait pas quand on avait 20 ans. Ça n'existait pas, tu regardais pas.
Ouais, rarement, oui, non.
Non, de toute façon, il ne passait pas.
Il n'y
avait pas d'endroit pour le voir. Tu savais que ça avait été un bon match. Tu
c'est tout ce que tu savais. Après, ouais, tu pouvais pas voir.
Non, j'ai résumé, ouais, tout à fait. Enfin bref, maintenant, en tout cas, Lille, bravo, bravo Lillois. Sur le match retour, je me rends pas compte, moi, Julien, si tu penses que.
Quelle est la Aston Villa, en fait, est-ce que cette compète pour eux, c'est important? C'est peut-être aussi ça qui.
Il y avait le roi. Il y a eu le petit môme avec lui et tout.
Oui,
comment ça se fait que son supporter d'Aston Villa.
Oui, après.
Donc en fait, William est allé à l'école pas très loin d'ici et dans un des copains qui s'est fait à l'école était grand fan d'Aston Villa et donc c'est comme ça qu'il est devenu supporter d'Aston Villa. Alors
et il a entraîné son fils parce que le petit aussi il est pour les Villans maintenant.
Voilà, c'est ça. George était là effectivement. Enfin, je crois que c'est George. Après, je sais pas s'il suit vraiment tous les résultats, etc. Mais c'est vrai que ça.
Bah, le petit il a l'air de kiffer le foot. À chaque fois qu'il l'emmène, il est content.
Ouais, il avait l'air plutôt content. Ouais, il avait l'air plutôt content.
Je me souviens la finale de l'Euro, il pleurait le pauvre.
Est-ce que t'es vraiment intégré?
Plus polo dans la famille. Hein, je crois.
Est-ce que Julien il est vraiment intégré en Angleterre pour ne pas connaître le prénom de
si,
William?
Si, c'est George, c'est George.
Non, il savait pas lequel des gamins était là, mais c'est le plus grand, c'est le plus grand qui était là.
D'accord,
c'est le plus
grand, c'est ça.
Voilà.
Exactement. Non, mais pour la question de Gilbert, parce que c'est une question intéressante. Les Anglais, par exemple, quand je leur ai dit que le PSG, Marseille et Lille n'avaient pas de match en Ligue 1 volontairement ce week-end, ils ont dit ah c'est pas mal, c'est intéressant parce que Villa va à Arsenal dimanche. Dans un match super important pour eux dans leur course à la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, pour finir dans les 4 premiers maintenant, parce que la 5e place avec la défaite de West Ham, la défaite de Liverpool, ça sent pas bon, ça sent la 5e place qui va aux Allemands et pas aux Anglais, donc il faut finir top 4 maintenant pour aller en Ligue des Champions, sauf si ça change drastiquement avant après le match retour. Mais le seul truc, je dirais, Gilbert, pour finir sur la question, c'est que Emery il adore ses Coupes d'Europe, même celle-là, même la petite que Flo méprise, lui il adore, ça fait sa légende, mais c'est vrai, ça fait sa
c'est
légende
vrai, c'est, vrai.
C'est le gars
qui a oui, mais enfin, c'est pas le seul Unai Emery qui va aller contre une culture anglaise ancrée, quoi. Je sais pas.
Bah après, oui, c'est non, lui bien qui sûr, mais s'il a envie de mettre une bonne équipe, s'il a envie de la façon dont il va leur parler, ça va compter.
Ouais, c'est clair. Et puis à Aston Villa, ça fait longtemps qu'ils sont pas été non plus en quart de finale d'une Coupe d'Europe, je crois que c'est 96 la dernière fois, donc même pour eux aussi, tu voyais l'ambiance ce soir, je pense que pour les supporters aussi, ça leur plaît cette compétition.
Aston Villa, ils ont gagné la C1, Aston Villa.
Ah, bien sûr, en 82.
82.
Absolument.
Paul est avec nous, supporter lillois, salut Paul.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Flo et salut Julien. Salut,
bon, Paul. Est-ce que tu es fier de ton équipe ce soir malgré la défaite?
Oui, je suis content. Bon, j'aurais bien aimé préférer un match nul ou même une victoire, mais honnêtement, je suis très content de ce que mon équipe a produit ce soir. On a vraiment regardé droit dans les yeux Aston Villa, qui est quand même juste le cinquième de PL, si je dis pas de bêtises. Vu ce qu'ils font dans leur championnat, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a produit. On n'a pas joué bloc bas, on n'a pas mis le bus, on a respecté nos principes de jeu, ce qu'on fait tous les week-ends en Ligue 1. On a eu beaucoup d'occasions. Alors, on était un peu naïfs à la fois dans leur surface et dans la nôtre. Julien disait, à ce niveau-là, tu peux pas prendre les deux buts qu'on a pris nous. Mais on a également mis deux buts, dont un qui refusait pour un millimètre hors jeu. On a eu beaucoup d'occasions. Leur gardien a vraiment sorti des très beaux arrêts. Je trouve qu'on a été bouffés sur le milieu de terrain. Honnêtement, leur milieu de terrain était quand même vraiment très bon, vraiment très fort techniquement. Ils arrivaient à conduire le ballon et à sortir le ballon assez facilement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de perspectives positives pour la semaine prochaine. On perd que d'un but, donc à la maison on est, enfin vous le savez parfaitement, à la maison on est quand même très 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 fort. Il y aura 50 000 personnes qui seront derrière eux. Moi je serai au stade jeudi prochain. On récupérera Angel Gomez, qui je pense a beaucoup manqué au milieu de terrain, ce qui fait qu'on a été très souvent obligé d'allonger des grands ballons pour trouver David et Zegrova et Radson. Eux-mêmes d'ailleurs ont un peu déçu aujourd'hui, donc je pense qu'ils auront un cœur de se rattraper jeudi prochain. Donc non, je pense que c'est ouvert et je mettrai pas ma maison sur victoire sur qualification du Lost, mais je serais prêt à mettre un petit billet quand même.
Mais en tout cas, pour le coup, l'histoire du calendrier est pas totalement anodine là. Entre une équipe qui va jouer Arsenal et une équipe rien joué, je pense que là on peut le prendre en compte. Et si ça pouvait permettre, pour une fois cette décision-là pouvait permettre à des clubs français de s'en sortir,
qui est une bonne idée.
Bah ce serait pas mal parce que. Là, on dit souvent que ça joue à des détails. C'est quand même pas des détails en termes de minutes de jeu, d'intensité, voire de risque de blessure que d'aller scolter l'Arsenal ou de ne pas jouer du tout.
Petite évaluation, Paul, qui t'a trouvé bon ou moins bon ?
Alors, ceux que j'ai trouvé bon, il y a Thiago Santos que j'ai trouvé très très bon. Dans le combat, vraiment acharné. Donc lui, techniquement, honnêtement, il a vraiment très bon. Yazici a fait une bonne rentrée. Aradson, c'est vraiment, vraiment bien bagarré. Et malgré son petit gabarit un peu fragile par rapport au mastodonte de Aston Villa, j'ai trouvé quand même très bon. Après, il y en a qui ont vraiment déçu. Zegrova, vous le disiez tout à l'heure, il est passé à côté de son match. Jonathan David, voilà, il a repêché par son déchet. Ben Taleb et André, pourtant je les adore, je trouve qu'ils sont exceptionnels, mais je pense qu'il leur a vraiment manqué, c'est ce que je disais, Angel Gomez avec eux pour performer. Mais voilà, vraiment ce que je veux sortir, c'est Aralson et Thiago Santos.
Bon. Alors, on va écouter Fonseca. Là.
Il est quoi ? Il est 21h le match ? Ça serait bien que ce soit décalé qu'on puisse voir. On va pouvoir voir les deux de façon bien séparée.
On va écouter Fonseca, mais Julien, tu voulais dire un truc ?
Non, juste parce qu'on parle beaucoup de Fonseca en Angleterre, notamment à West Ham, pour remplacer David Moyes. Et je pense que ce soir, ce que Lille a produit, le football qu'ils ont montré, j'en ai beaucoup parlé dans l'avant-match, notamment à la télévision anglaise. Et c'est vrai que, à mon avis, sa cote est encore en train de monter. Alors, je sais pas.
C'est ta faute tout ça. Toi, tu vas faire briller Fonseca à la télé anglaise.
Ce serait dommage que la Ligue 1 le perde.
C'est ta faute, mon vieux.
S'il y a la Ligue des Champions. Mais en tout cas, c'est vrai que sa cote était déjà pas mal élevée. En Angleterre avant le match, et je pense que ce soir, ça l'a encore enlevé un petit peu plus.
Olivier Létang, elle l'a déjà retenu pour qu'elle n'aille pas à l'OM.
Mais Julien, dernier, ça.
Ouais, Paul.
Julien, je voulais juste te demander qu'est-ce qu'il dit justement sur les chaînes anglaises de ce qu'a produit Lille ce soir.
Alors, je t'avoue qu'il connaissait pas beaucoup Lille avant le match.
Oui, j'imagine bien, oui.
Je vous ai beaucoup insensé. J'ai pris d'ailleurs le train avec plein de supporters de Lille qui sont des grands fans de l'After. Et donc, je leur ai dit, je leur ferai une petite dédicace. Et je leur ai dit, c'est pas ce soir, hein, prenez pas une fessée 4-0, là, parce que j'ai dit à tout le monde, vous étiez une bonne équipe. Donc, déjà, je suis content que vous ayez perdu que d'un but d'écart. Et deuxièmement, tout le monde était vraiment surpris par la qualité du jeu, notamment. Et encore ce courage dont on parlait tout à l'heure avec toi, Paul, avec Flo aussi, sur le fait que vous avez joué, que vous avez. Par moment, d'accord, tenter de passer par-dessus la défense pour les prendre à revers parce qu'ils jouaient avec une défense haute comme ils font tout le temps. Mais vous avez joué, vous êtes créé plus d'occasions qu'eux même. Et je peux te dire, moi qui regarde Aston Villa tous les week-ends, c'est très rare de voir une équipe en première ligue venir ici à Villa Park et se créer autant d'occasions que vous l'avez fait ce soir. Donc vraiment, les Anglais ont été très agréablement surpris par la performance lilloise.
Tu disais tout à l'heure, ils voulaient voir Jonathan David et Yoro, ça les intéresse pas.
Mais Yoro, il est bouclé déjà.
Alors Yoro, je pense qu'ils savent que c'est, je pense qu'ils savent, mais c'était un test pour lui aussi. Et par moment, t'as Watkins qui est très très bon.
Hein, Lucas Chevalier, ça les intéresse pas non plus. Pourquoi Julien, Yvan Fonseca, moi je vois les joueurs.
Moi je vous fais une petite offre. Je vous prends Chevalier, Yoro, David. Je vous fais 70 millions et hop, on est content.
Ouais, tu nous as pris pour des pigeons.
70 là, c'est.
Mais toi, il te répond même pas au téléphone.
Tu rajoutes un zéro. Tu rajoutes un zéro.
Bon, Paul, David joue, on n'a pas évalué son match d'ailleurs.
Donc tu rajoutes un 1 devant le 70.
Si, on l'a dit qu'on avait été plutôt déçu par sa prestation ce soir.
T'es d'accord, Paul ?
Oui, plutôt déçu. Il revenait bien ces derniers matchs. Et là, ce soir, il est retombé dans ses travers où il a beaucoup raté, beaucoup vendangé, où il n'a pas créé les décalages qu'il arrivait à créer ces derniers
matchs. Il n'y a pas ça dans le milieu du foot, tu sens pas que, au global, scout, observateur, qu'il a le oui mais, c'est-à-dire ouais, il est bon, mais pas suffisamment. Ouais, David, tu sens qu'il y a une interrogation, tu as ultime sur le fait qu'il est vraiment un très bon attaquant.
Oui, mais d'accord, mais ton oui mais, il intervient où ? Pour quel club ? Pour quel prix ?
Oui, c'est ça, oui.
Parce que si tu vas par là, à quel moment, dans un club comme l'OM, il n'y a pas eu un oui mais pour Mbagna ? Non, mais déjà, il intervient où, le oui mais ? Ouais, c'est ça. Si tu me dis.
Nous, on l'a appelé le 8 mai, on s'est fait allumer parce qu'on a dit mai.
Qui ?
Bah, nous.
Pourquoi il devait aller à Strasbourg ?
Mais non, à l'OM.
Ah oui, oui, ah oui, ah oula, oui, oula, qu'est-ce qu'on a
dit. Il dit que le mai même. Non, mais c'est vrai.
Non, mais tu vois, si tu me dis Jonathan David pour Arsenal ou un grand club comme ça, oui, je comprends qu'il y ait le 8 mai. Après, il y a d'autres clubs en première ligue où le mai, je crois, on l'entendra moins fort, tu vois.
C'est que je ne comprends pas pourquoi c'est possible de faire de fautes à l'intérieur de surface. C'était clair, le premier goal, tout le match, le CPA, c'est pas bloc, c'est faux. C'est faux, c'est pas possible. Je veux que l'arbitre m'explique pourquoi. Je peux accepter que c'est difficile pour l'arbitre de voir, mais nous avons voir.
Bon, il n'est pas content de pas mal de décisions apparemment.
Ouais, bon,
alors, après, les temps est passé. Les temps, lui, il n'a pas polémiqué. En général, les temps, c'est le premier à dégainer quand
non, mais en plus, de l'autre côté, je crois que Villa aussi peuvent se plaindre d'une ou deux décisions. Bon, ce genre de débat.
Ouais, il y a l'action de Benjamin André sur
Watkins. C'est ça, voilà.
Honnêtement, j'ai un peu serré les fesses quand j'ai regardé l'arbitre et qu'il disait non, ça joue. Je me suis dit, bon, du coup, ça équilibre avec Thiago Santos qui prend un coup de coude dans la surface adverse.
Globalement, l'arbitre avait pris l'option ça joue.
En parlant
merci,
ça joue,
Paul.
En parlant du ça joue.
Gilbert, juste un dernier petit truc. Je vous dis à toi et à Daniel et à mon avis à tous les autres, à demain soir.
Ah, bah écoute, à demain soir.
Je viendrai avec mon meilleur pote vous voir au Trianon.
Eh bien, écoute, on est ravis de t'avoir avec nous demain.
À demain.
Passez une bonne soirée, les amis.
Salut, ciao. À demain, ciao.
Tu disais quoi avant là, tu parlais de l'arbitrage. Donc le Texier arbitrait City Real.
Très bon match.
En fait, l'UEFA a décidé qu'il y avait deux façons d'arbitrer. Donc en fait, ils doivent leur dire en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ça fait partie du paquet de spectacle. Vous faites ce type d'arbitrage.
Ah mais eux ils changent.
Parce que le Texier,
eux ils changent. Eux ils disent pas deux façons d'arbitrer. Eux ils donnent la leur qui est la bonne à mon avis.
T'as raison. C'est plus ça qu'il faut dire. Donc vous faites ça parce que dans le paquet, dans le spectacle, il y a que vous laissez jouer. Et donc on a vu un Le Texier qu'on ne voit pas en Ligue 1 parce que il y a certains contacts où il a laissé jouer dans ce City Real ou en Ligue 1 il siffle tous les jours. Moi ce que je ne comprends pas, c'est puisque t'es la LFP, tu veux développer ton produit, t'as envie de le rendre plus spectaculaire. Pourquoi tu ne développes pas un arbitrage qui va ressembler à ça? Et c'est là que je me demande si l'UEFA ne demande pas aux ligues de pas pratiquer le type d'arbitrage.
Là, tu vas loin là.
Non, je te le dis pas en mode complot.
Ouais.
S'ils leur disent pas, il faut qu'il y ait une distinction.
Non, moi je pense pas. En revanche,
alors pourquoi alors?
Non.
Explique-moi pourquoi en Ligue 1 les mecs ils sifflent des trucs en Ligue des Champions ils ne sifflent pas.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, je pense que les consignes en France sont pas bonnes. Ça c'est sûr. Et donc l'arbitrage qu'on critique beaucoup en Ligue 1, c'est intéressant de voir que c'est pas forcément lié aux arbitres eux-mêmes, mais lié aux consignes qu'ils reçoivent et notamment à la notation qui s'ensuit.
Je suis d'accord.
Oui, mais donc.
Et bien donc alors.
Mais c'est pas lié à l'UEFA ou autre. C'est-à-dire que malheureusement en France ils ont ces consignes là.
Pourquoi tu ne fais pas la même.
C'est pas la réponse. En revanche, ce que je vois c'est que le Texier est capable de faire un match en dehors d'ailleurs de ça, de laisser jouer ou pas, dans la communication, dans la façon dont il était très très près des gars pour les moments chauds. Moi j'ai trouvé très très bon, et on m'a dit effectivement derrière tous les mecs, ah bah tu l'as pas vu à Nantes, tu l'as pas vu là, oui si je l'ai vu, mais je te dis qu'il est capable de bien arbitrer effectivement, et qu'il a été bon ce soir là
au lieu de
mais parce que l'UEFA se
fait la guerre depuis des années, c'est la guerre entre les arbitres. Ils changent. Là, c'est Gauthier qui veut le foutre dehors. C'était quoi l'embrouille entre Lannoy et Gauthier. Depuis Kinyou, les arbitres se tirent dessus en Ligue 1 entre la Fédé, la Ligue, les embrouilles. Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'avais le sentiment que c'était un truc simple. Quand t'avais une bande d'arbitres, hop, tu leur disais voilà comment ça doit marcher. Allez-y. Vous êtes payés tant, faites vos matchs et tout. Eux, déjà, ils ne font que se tirer dessus en permanence, ces arbitres. T'en as pas, ils peuvent pas se blairer entre eux, la plupart.
Il y a une différence basique, Daniel, c'est qu'en Coupe d'Europe, t'as les meilleurs de chaque pays. Voilà.
On vient de dire que
ça compte.
Bah, non, ça compte pas. Bah, puisque si le Texier en Ligue 1, il y a plein de gens à qui il plaît pas.
Ouais, bon.
Non.
Globalement, le Texier, t'as l'impression qu'il fait que des mauvais matchs en Ligue 1?
Bah, non.
Mais. Là, non,
c'est plutôt la façon d'arbitrer.
C'est la façon d'arbitrer. Donc moi je te dis, plutôt qu'ils passent leur temps à se tirer dessus, les arbitres, là, à se détester entre eux, dire l'autre il a un tocard et l'autre regarde comment il fait, machin, et la Fédé, et la Ligue, Gauthier, Lannoy, toutes leurs querelles de chapelle auxquelles on comprend rien du tout d'ailleurs. Mais je sais pas moi, quand tu vois que le Texier fait ce match-là, tu dis ok, mais pourquoi on n'applique pas les mêmes règles? Arbitrer de cette façon-là en Ligue 1, faites ça.
Peut-être que Roberto Rossetti, qui est le boss à l'UEFA, applique, donne des consignes plus claires, j'en sais rien.
Bah oui, bah donc je sais pas moi qui.
On peut quand même constater que on parle beaucoup d'arbitrage en Ligue 1. Finalement, on parle assez peu de scandales ou de grosses erreurs en Coupe d'Europe. Je sais pas, vous avez en mémoire des trucs là cette saison là.
Il y a plusieurs choses par exemple dans ce qu'on voit en Coupe d'Europe et qu'on a vu aussi en Première Ligue d'ailleurs. L'appel à la VAR. Qui est pas énorme et qui est très vite réglé. La rapidité de la décision.
Nous, ça le check un over. De ouf. Non, rien, ça compte. Les mecs, ils sont en train de faire la sieste.
Le reste du soir, le hors-jeu du but lillois refusé là. Au début, on voit une mauvaise image parce que le ballon est plus dans le pied. Et après il nous montre la bonne.
En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de laisser jouer effectivement pour le spectacle. Il y a le fait effectivement qu'il y a un check plus rapide sur le VAR. Il y a plein de choses. Finalement, t'as l'impression d'un arbitrage un peu différent.
Ils ont les meilleurs arbitres, le meilleur matos. Mmh. Et toi, t'as qu'à faire la même chose à ton niveau. Bosse pour faire la même chose au lieu de créer une guerre là entre Lannoy, Gauthier, Aulas s'en est mêlé, ils s'en mêlent tout. On dit mais c'est de la folie, cette histoire, les querelles d'arbitrage qu'on a en France.
Allez, une pause et ensuite on va parler des autres matchs de la soirée. Je remercie donc Paul. Julia, tu restes avec nous pour nous raconter un peu ce qui s'est passé à Liverpool et Johan Crochet va nous rejoindre. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à 12h30.
L'after foot.